Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on va ouvrir grand la bouche, ou plutôt grand les dents aujourd'hui. On va parler de toutes les techniques en orthodontie que l'on peut faire chez les adultes. Un appareil dentaire à 30, 40 ou même 50 ans, c'est possible et ça peut même être discret et sans douleur. On vous présentera toutes les solutions qui existent pour réaligner, resserrer les dents ou même régler des problèmes de mâchoire ou de langue. Et justement, pour nous éclairer et surtout nous aider à retrouver un sourire éclatant, nous recevrons le docteur Jean-Baptiste Kerbras. Il est chirurgien maxillofacial et orthodontiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous ferons un point sur l'hémangiome infantile. Ces bébés qui naissent avec des taches rouges, bien souvent, sur le visage, la tête ou ailleurs sur le corps. Dans 80% des cas, pas besoin de traitement, ça se résorbe tout seul. Mais ça inquiète évidemment beaucoup les parents. Jimmy nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle fera un focus sur un phénomène qui peut inquiéter parfois les jeunes hommes, l'éjaculation nocturne.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on commence l'émission par cette question de Nadia. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour toute l'équipe, c'est Nadia. J'ai acheté l'huile essentielle qui s'appelle Petit Grain de Bigarde chez une boutique bio. Pour donner à ma fille de 8 ans qui est un peu anxieuse, ils m'ont conseillé de donner une goutte sur un petit bout de pain une heure avant le coucher. Est-ce que ce dosage est juste? Merci de votre réponse.
Jimmy, votre réponse, je pense que non. Vous passez votre tour là, non?
Oui, largement. Ouais. Pour une fois, je sèche.
Allez, très bien. Pour vous répondre, Nadia, nous nous sommes tournés vers une spécialiste du sujet. Elle était justement notre invitée ce mardi. C'est le docteur Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie, spécialiste des huiles essentielles.
Bonjour Nadia, merci pour votre question. Alors effectivement, le dosage peut être correct. Les huiles essentielles sont très efficaces. Il faut faire attention quand même à leur toxicité éventuelle. Pour celle-ci, sans risque pour une enfant de 8 ans, même si elle est épileptique ou asthmatique. Alors l'intérêt de la voie orale, je le vois peu ici, puisque je trouve que ce serait plus intéressant de la déposer sur le poignet. En plus, c'est pas photosensibilisant. Et là, on est le soir. Comme ça, ça rentrerait directement dans le poignet et donc dans le sang. Et ensuite, elle pourrait le respirer longuement. Il serait encore plus efficace puisque ici l'aspect olfactif est vraiment à prendre en compte et on va avoir une action beaucoup plus immédiate que la voie orale où il faut que ce soit justement métabolisé par l'organisme.
Voilà, c'était le docteur Quick-Marinier au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va en prendre une vraiment pour vous de question. Celle-ci, c'est Raphaël qui nous a appelé d'Auxerre qui nous l'a posée.
Bonjour Jimmy et bonjour Mélanie. J'ai une petite question à vous poser. Voilà, j'ai ma mère de 80 ans qui a des pieds qui ont doublé de volume en une nuit. Nous lui avons mis des bas de contention. Est-ce que c'est suffisant ou devons-nous consulter un médecin? Merci pour votre réponse et bonne journée.
Alors, on n'est pas là évidemment Jimmy, on le rappelle une fois de plus hein, pour faire un diagnostic en direct. Il faut évidemment consulter votre médecin, ça je peux vous le dire d'ores et déjà. Mais Jimmy, là ce qu'il décrit, des simples bas de contention, c'est pas suffisant, il faut qu'il voit quelqu'un. Hein.
Non, là ça semble être un peu un cache-misère. Ce qui doit vous alarmer, c'est le caractère brutal, on sait. En vieillissant, vous allez avoir des troubles de la circulation, soit veineuse, soit lymphatique, et qui vont aboutir peu à peu, car vous bougez moins, à des jambes un peu grosses et des œdèmes qui vont être progressifs et qui finalement ne vont pas trop rendre la vie compliquée des gens. En revanche, si en l'espace d'une nuit, vous dites c'est étrange, les jambes ont doublé tel que c'est décrit, eh bien là, on a plutôt envie de se dire qu'il se passe quelque chose et quelque chose de plutôt urgent. On sait que certains traitements, notamment certains médicaments contre l'hypertension artérielle, peuvent donner des œdèmes des membres inférieurs. Même chose pour certaines pilules ou les corticoïdes. En revanche, le caractère vraiment brutal, et j'insiste sur ça, au réveil le matin, doit vous faire pencher vers une cause parfois un peu plus importante.
Bon, on est d'accord en ce moment, de toute façon, ça ne peut pas être la chaleur. En été, on pourrait imaginer que c'est ça éventuellement. Là, le fait que ce soit les deux pieds, est-ce que ça change quelque chose à ce qu'on peut envisager comme hypothèse, justement?
On peut imaginer trois causes principales. La cause la plus fréquente, c'est une cause cardiaque. Pour des histoires de pression, lorsque le cœur marche moins bien et lorsque vous avez de l'insuffisance cardiaque, eh bien, vous allez faire de la rétention et donc avoir des œdèmes des membres inférieurs. Et à côté de ça, le patient va se plaindre aussi d'un essoufflement et il va avoir du mal à rester allongé, il sera toujours demi-assis. Mais vous avez le droit aussi d'avoir un problème hépatique lorsque vous avez une insuffisance hépatocellulaire.
Le foie, ça va.
Et oui, vous manquez d'albumine et ça entraîne de la rétention. Même chose lorsque le rein est malade. un rein qui va tout d'un coup souffrir, ne va plus filtrer l'albumine de façon efficace. Et donc, vous allez avoir des œdèmes des membres inférieurs. Et donc, il faut évoquer une de ces trois causes, le cœur, le rein ou le foie.
Donc, ça ne peut pas être une simple insuffisance veineuse qui fait gonfler. Comme ça, on dit parfois, les gens qui ont les jambes lourdes, là, elles parlent de pieds gonflés. Ce n'est pas la même chose, a priori.
Ça pourrait être de l'insuffisance veineuse sur laquelle s'est greffée une cause supplémentaire. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut traiter la cause et pas se contenter des bas de contention qui vont être simplement agir comme un cache-misère. Donc vraiment, je vous recommande fortement, si ça n'a pas déjà été fait,
d'appeler votre médecin. J'espère que ça a déjà été fait, bien sûr.
Car finalement, la cause la plus fréquente qu'on trouve chez la personne âgée, c'est l'insuffisance cardiaque, notamment en période où on va manger un peu plus de sel. Ça va augmenter la rétention hydrosodée. Et puis, on ne va pas bien s'hydrater. Et puis, on va prendre parfois un médicament en trop. Et à ce moment-là, eh bien, il faut absolument consulter, puisqu'on va vous donner souvent des diurétiques pour éliminer l'excès d'œdème qui a été enregistré.
Très rapidement, Jimmy, pour terminer, si ça avait été qu'une seule jambe, très gonflée, comme ça, d'un coup, enfin un pied, parce que elle parle de pied, c'était différent peut-être ?
Alors, on pourrait imaginer deux diagnostics, plutôt local, comme un début d'infection, on appelle un érysipèle, mais vous allez aussi d'avoir, en plus de troubles de la circulation, une phlébite qui s'est greffée. Donc, finalement, il y a aussi un caractère d'urgence, donc
quoi qu'il en soit,
uni ou bilatéral.
Quelque chose qui gonfle d'un coup.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Direction le docteur. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout. N'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité du jour. C'est vous, docteur Jean-Baptiste Kerbra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien maxillofacial et orthodontiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également membre de la Fédération française des orthodontistes. Alors, on va s'intéresser aux traitements que vous pouvez mettre en place chez les adultes cette fois. Je dis cette fois parce que vous étiez venu il y a quelques mois nous parler des enfants. Mais nous aussi, en fait, hein, les grands, on fait de plus en plus appel à vos services ces dernières années. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de patients adultes que potentiellement ça concerne déjà, on va dire, l'orthodontie ?
Alors c'est vrai, quand on est adulte, on a tendance quand même à avoir une évolution de ses dents spontanément. Donc c'est pas par exemple parce qu'on a eu un traitement jeune qu'il ne se passe plus rien adulte. On vieillit tous, on a tous des muscles qui changent et donc la position des dents change aussi. Donc on a l'habitude de dire que les dents qui bougent, alors soit les diastèmes, c'est-à-dire des trous, soit les dents qui se chevauchent, c'est aussi un peu l'évolution naturelle d'une bouche. Mais la société fait qu'on supporte de moins en moins tout ça et qu'il y a une grosse demande. Alors effectivement, vous m'avez demandé des chiffres, je me suis un peu renseigné. Par exemple, pour vous donner un exemple, on sait les enfants parce qu'il y a la sécurité sociale qui rembourse, donc on connaît à peu près le nombre de dossiers. Chez l'adulte, il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Donc il y a quelques mutuelles qui remboursent. Et par exemple, sur une mutuelle qui rembourse l'orthodontie, eh bien il y a une augmentation de 60% des dossiers en 10 ans.
Oui, ça donne une petite idée.
Ce qui est quand même assez important.
Bah oui.
Et c'est vrai que dans un cabinet, ça peut représenter 10, 15, 20% d'une activité de certains.
Quand même, de la patientèle. Ouais.
Exactement. Alors certains se sont plus focalisés sur les adultes, d'autres pas du tout. Donc il y a une très grande hétérogénéité dans les cabinets.
Et du coup, pourquoi les patients viennent vous voir ? Pour quelles raisons ? C'est quoi le motif premier qui vous donne en disant bah, c'est quoi ? Je veux un beau sourire, j'en ai marre de mes dents, elles se chevauchent, comme vous l'avez dit.
Elles sont écartées, elles sont chevauchées, elles sont
tordues. C'est vrai qu'il y a le côté j'aime pas mon sourire. Mais quand on cherche un petit peu plus loin, on trouve toujours, enfin, très souvent, des causes fonctionnelles qui s'y ajoutent.
C'est-à-dire,
si on a les dents qui sont pas droites, il y a souvent les mâchoires qui sont pas droites derrière. Et donc, on peut avoir une ventilation, par exemple. On peut respirer par la bouche. On peut mal dormir. On peut mal mastiquer. Donc, toute une évolution de la physiologie normale. En fait, finalement, nos dents, elles sont pas là pour être jolies. Hein. Elles sont là pour qu'on les utilise. Et donc, ça, c'est fondamental. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent initialement même pour des questions purement fonctionnelles.
Vous dites que c'est en augmentation, donc avec quelques chiffres que vous venez de donner ces 10 dernières années, on va dire. Mais est-ce qu'on a une idée de quelle part, on va dire, des adultes en général ont, en tout cas, potentiellement des problèmes de dents qui pourraient nécessiter un appareillage ? Après, on fait évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais...
C'est vrai que chez les enfants, il y a à peu près 50% d'une classe d'âge qui a besoin de...
Parce que dents tordues, dents écartées, trop petites mâchoires.
Ouais. Et on peut se dire que grosso modo, chez les adultes, c'est à peu près la même chose. Parce que
avez réparé enfant, donc...
Oui, mais on vous a réparé, mais on a l'évolution du temps qui fait que c'est pas pérenne toute la vie sans qu'on y touche, sans qu'on maintienne les choses. Donc, finalement, on va retomber sur à peu près 40 à 50% d'une classe d'âge.
Quelle angoisse, c'est-à-dire que je vais peut-être devoir
recommencer.
Si je
m'en ai dedans, vous allez comprendre que moi, je vais peut-être devoir recommencer. Hein.
Mais justement, est-ce que vous avez une tranche d'âge particulière ? Est-ce qu'il y a une crise de la quarantaine ? Mélanie, est-ce que dans 1 ou 2 ans, elle va venir vous voir en disant...
Mais je vous permets pas, Jimmy.
Je n'en peux plus, il faut faire quelque chose, je vais retrouver mon sourire d'il y a 20 ans.
Alors, il faut juste couper et dire que quand même, quand on a fait un traitement enfant, on a sûrement très bien traité la plupart des choses et donc on a l'évolution naturelle, mais on a enlevé les plus gros problèmes. Donc, ce n'est pas parce que on a les dents qui rebougent un peu que c'est exactement tout à refaire. Donc, je voudrais pondérer les choses. La deuxième chose, c'est oui, il y a des classes d'âge. Et notamment, effectivement, la quarantaine est un âge où, malheureusement, on peut avoir des changements de vie. Des divorces, etc.
Et on se dit, je vais tout refaire, là.
On s'aperçoit à ce moment-là qu'on a peut-être un besoin de séduction accru et on a une demande. Mais je ne m'arrête pas là. Vous avez parlé des 40-50 ans, mais on a des gens de 60-70 ans qui nous demandent de réaligner leurs dents. Moi, je me souviens d'une personne de 70 ans qui m'a dit « Ma petite fille m'a dit que j'avais des dents de sorcière, c'est juste insupportable pour moi ». Et on peut tout à fait le comprendre.
Et donc, ce n'est que pour un critère esthétique. Il n'y avait pas de problème fonctionnel. Et donc, même à 70 ans, on peut se dire, je veux encore un beau sourire.
Je veux un appareil dentaire.
Je veux un appareil dentaire et je suis prêt.
Il est évident que cette dame-là avait aussi quelques problèmes fonctionnels. Mais très clairement, elle venait parce que son problème était un problème social. Et que là aussi, c'est pas juste pour faire joli. C'est que quand il y a ce problème social, on l'avait vu chez l'enfant ou... Quand on, dans une cour de récréation, on se fait moquer, c'est un vrai problème. Et ben, au travail, c'est la même chose. Et n'oublions pas que, autant il y a quelques années, un patron pouvait dire « je ne veux pas que vous ayez de bagues maintenant, c'est terminé ». Le patron pourrait même dire « je pense qu'il faudrait peut-être voir un orthodontiste pour que le sourire soit mieux ».
Exactement. On dit là, donc n'importe quel âge, vous avez parlé de cette petite patiente de 70 ans, mais est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes? On imagine que les femmes ont peut-être plus de soucis de coquetterie, mais non, aujourd'hui,
écoutez,
c'est pareil.
Écoutez, j'ai regardé ça dans les dossiers.
Alors, dites-moi.
Effectivement, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais en toute honnêteté, je pense que ça se pondère maintenant et il y a une vraie volonté de tout le monde d'améliorer son physique, mais aussi... Par exemple, la respiration nocturne est un vrai problème et que quand on respire mal la nuit, on a envie que cela change. Quand vous êtes sportif et que vous êtes obligé d'ouvrir grand la bouche parce que vous avez, c'est aussi un problème. Voilà.
Est-ce qu'avec la période du Covid et le port du masque, vous avez eu plus de patients qui viennent se faire traiter puisque justement,
on voit pas les bagues,
on peut les cacher. Donc, on peut, voilà.
Alors, les remarques que l'on a, c'est un peu drôle, c'est des gens souvent nous demandent quelque chose d'invisible quand on est adulte. Et c'est vrai que l'évolution des traitements, avec des traitements ou linguaux ou en gouttière de moins en moins visibles, ont fait cette augmentation des traitements d'adultes parce que ça ne se voit plus. Et là, on a plutôt la remarque de se dire « Oh ben, si j'avais su que pendant un an j'avais le masque, j'aurais peut-être pu prendre quelque chose de plus visible et de moins cher. » Voilà. Mais je pense pas qu'on en soit au point de se dire « Je mets le masque, donc c'est le moment de faire le traitement. » Je ne pense pas. Même si j'ai vu aux États-Unis une publicité avec effectivement un visage masqué, c'est le moment d'aller faire votre traitement d'orthodontie.
Bon, en France, on n'en est pas encore là.
Mais allez-y, Mélanie, vous voyez, c'est le moment. C'est le moment, encore quelques mois.
Est-ce que chez les adultes, comme chez les adolescents, dont on a parlé la dernière fois, est-ce qu'on peut vraiment tout corriger? On a dit des dents pas bien alignées, des dents écartées, des mâchoires trop petites. Est-ce que vraiment chez l'adulte, moi, je sais pas, j'imagine quand même une dentition un peu plus solide, un peu plus figée que chez des enfants, j'en sais rien. Est-ce que vous allez pouvoir vraiment tout corriger?
Alors, on peut tout corriger à condition de se mettre d'accord d'emblée sur le diagnostic et sur le traitement qui peut être pluridisciplinaire et notamment chirurgical associé. Un enfant, on peut encore, et on l'a vu ensemble, changer la croissance, augmenter la taille d'un os, etc. Chez l'adulte, plus de croissance.
Ouais,
donc, on ne peut plus compter sur ça. Donc, effectivement, quand on a des décalages des mâchoires, il va falloir s'aider d'une chirurgie des mâchoires, ce qu'on appelle une chirurgie orthognatique, de façon à compléter le traitement d'orthodontie. C'est-à-dire que là, il y a un vrai couple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'appareillage sans la chirurgie et la chirurgie ne peut pas se faire sans l'appareillage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec son patient, voir s'il est décidé à le faire, en sachant que ça devient là aussi très classique et très courant.
Mais il n'y a pas de contre-indication, j'en sais rien, chez quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de tartre, enfin des choses comme ça.
Alors,
vous faites un grand nettoyage, j'imagine, avant de poser l'appareil.
Oui, c'est évident que si quelqu'un arrive avec une bouche pas très propre, la première chose, ça va être ça.
Ouais.
Donc non, il y a des contre-indications qui sont, vous l'avez dit, l'hygiène, qui sont le parodonte, c'est effectivement cet os qui tient la dent. S'il n'y a pratiquement plus d'os,
ça va être très compliqué
de bouger. Oui. On risque d'avoir les dents qui nous restent dans la main. À l'inverse, quand il y a peu de parodonte, si les dents ne sont pas droites, ça peut aider le parodontologue de réaligner les dents pour pouvoir lui faire les traitements.
Alors, vous l'avez dit, à l'âge adulte, la croissance est arrêtée, les dents sont plus figées. Est-ce que ça prend plus de temps de rééduquer, de changer la
dentition
de quelqu'un?
Combien de temps vous avez porté votre appareil,
Jimmy? Voilà, quand même,
deux ou trois ans.
J'ai...
C'était long. Hein.
Alors, s'il y a peu de choses à faire, une ou deux dents, ça peut être un traitement court, mais il faut avoir dans l'idée
court,
que...
Court, c'est quoi?
C'est 6 mois, un an. Si on veut réaligner quelques dents qui se sont mis à tourner, ce qui est classique avec l'évolution de l'âge. Mais un traitement classique d'un adulte, c'est 2 ans aussi.
Comme les ados. Mmh, très bien. Docteur Kerbrand, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et notre invité, donc, est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Jean-Baptiste Kerbrand. Vous êtes, je le rappelle, chirurgien maxillofacial et orthodontiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, assistance publique hôpital de Paris. Alors, on va passer aux différents traitements orthodontiques possibles chez les adultes. Alors, je crois que finalement, comme chez les ados, enfin, je dis les ados, les enfants, il y a 3 grands types. D'abord, les bonnes bagues extérieures, hein, celles qu'on a eues, Jimmy. Enfin, j'imagine que vous avez eu celle-là, vous aussi.
Ah oui, le chemin de fer.
En fer, les miennes. Hein, voilà. Je crois qu'elles sont aussi en céramique aujourd'hui.
Voilà.
Chez les adultes, c'est courant parce que ça se voit quand même. Hein, c'est pas très discret. Quoi.
Oui, mais il y a des gens qui assument totalement le traitement. Il faut savoir que ça, c'est très sociétal.
Parce que vous nous disiez, les ados, ils raffolent des bagues en fer. En fait. Ils veulent que ce soit voyant. Hein.
Et certains ados veulent que ça ne se voit pas du tout. Et d'autres ados, au contraire, veulent que ça se voit, veulent de la couleur. Il y a certains pays du Golfe où on propose des bagues plaquées or. Hein, donc,
là, les adultes, ils vous font des demandes de quel genre
tout peut se voir. Bon, grosso modo, les bagues, elles peuvent être ou en acier ou en céramique. Il faut savoir quand même qu'elles se sont beaucoup miniaturisées, donc par rapport aux rails de chemin de fer.
Ah, moi, j'ai l'impression que ça me prenait la dent entière.
Ça ressemble plutôt à un petit bijou posé sur l'incisive. Écoutez, anecdote d'hier au cabinet, une petite fille, je lui dis, bah, c'est bientôt fini, on va pouvoir l'enlever. Ah, j'adore mes bagues, je ne veux pas qu'on me les enlève. Ça, on ne me l'avait encore jamais dit, mais comme quoi, tout est possible. Donc effectivement, les bagues sont toutes petites et elles se voient, mais... Elle se voit comme un traitement orthodontique, on voit la dent derrière, ça ne fait pas le rail de fer. Il y a vraiment des adultes qui supportent ça très bien. S'ils veulent quelque chose de moins visible, les bagues en céramique sont blanches. Le fil, lui, a du mal à être purement blanc.
C'est toujours couleur fer, quand même.
Oui, parce que les techniques font que c'est compliqué pour l'instant, qu'on n'arrive pas à avoir des fils très, très actifs.
Mais il faut qu'ils soient solides et qu'ils soient en même temps...
Exactement, et puis que le traitement de surface résiste à la bouche. Et par exemple, un fil qui est coloré en blanc, très souvent, il perd sa pellicule et au bout de quelques jours, le fil devient un petit peu émietté de couleur blanche et c'est plutôt sale.
Mais céramique ou fer, c'est pareil quand même. Hein. Sinon, pour l'indication, je veux dire...
L'indication, c'est les mêmes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'orthodontiste, c'est sa spécialité. Donc, il va utiliser un des instruments qu'on va voir aussi après, mais il peut changer d'instrument pendant le traitement, etc. C'est tout l'avantage de voir un spécialiste, c'est qu'il va connaître toutes les techniques et va pouvoir s'adapter à son patient. Mmh. Et là, c'est important de dire qu'on va individualiser le traitement à chaque patient.
Alors, on va voir les bagues intérieures ensuite, mais d'abord, ces bagues extérieures classiques, comment ça se passe la pose? On prend des empreintes, on doit être suivi pendant combien de temps? Est-ce qu'on doit les resserrer à mon époque?
Moi, j'allais tous les 2 mois, je crois. Ou tous les mois, non, je ne sais plus.
Alors, effectivement...
J'ai l'impression que je passais ma vie, mon adolescence, chez l'orthodontiste.
Ouais. Hein, plus, quand on les a traités jeunes tôt et qu'on les a surveillés, alors là, ils ont l'impression d'avoir passé leur enfance
chez nous.
Écoutez, les bagues, on les colle. Avec une colle qui est très fluorée, donc c'est pas dangereux finalement. Le gros problème, c'est quand on se lave pas les dents, c'est autour de la bague. C'est quand on n'a jamais de caries sous la bague, mais bien autour. Donc, il n'y a pas de problème sur la colle orthodontique.
C'est fait comme pour les ados, c'est la même chose. Hein, là,
c'est la même colle, c'est exactement la même chose. On colle une arcade ou 2 arcades en une fois. Moi, je préfère une parce que comme ça, les gens s'habituent un peu.
D'abord le haut et après le bas.
Exactement, souvent d'abord le haut et après le bas. Et puis, si c'est de la céramique, ben, c'est exactement la même méthode. On fait des moules effectivement avant pour garder l'image de ce qu'était la dentition avant le traitement. Et puis, on colle les bagues et puis on part sur effectivement 1 an et demi, 2 ans de traitement.
Et ça coûte combien? Donc on a dit pas de remboursement en moyenne chez un adulte.
Il
n'y
a pas de remboursement. Et chez un adulte, il faut compter entre 600 et 1500 euros par semestre.
Semestre.
Donc vous multipliez par 4 ou 5, suivant la durée du traitement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les traitements de 6 mois à 1 an sont réservés à des choses extrêmement minimes.
Alors du coup, ensuite, il y a les bagues intérieures. À quoi elles ressemblent? Puisqu'on imagine que si c'est exactement la même chose qu'à l'extérieur, ça va gêner.
Moi,
je n'ose
même pas imaginer le chemin de fer que j'avais à l'extérieur si je l'avais eu dans la bouche.
Ça va râper la langue pour la mastication. Comment
elles
ça se passe?
Elles sont un peu plus fines
et pas exactement
adaptées à la morphologie. D'accord. Donc effectivement, elles épousent la face linguale d'une dent. Ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est très cher, c'est qu'une dent, vous n'avez pas toujours la même épaisseur. Donc en fait, chaque bague va être, j'allais dire, faite sur mesure pour chaque patient. Et donc, de façon à ce que l'extérieur soit aligné. Mais l'intérieur peut avoir des vagues, puisque les épaisseurs vont être différentes. Et effectivement, la langue, elle est quand même dessus. Donc, il y a des gens qui supportent tout à fait bien et d'autres pas du tout. Et puis, il y a des indications avec des langues un peu volumineuses.
Là, vous ne le faites pas.
Ben, moi, personnellement, non, parce que je considère
Vous voyez
que...
en ouvrant la bouche, ça veut dire, tiens, lui, ben, il a une énorme avoir, langue et peut... lui, ça...
Oui, ouais. Voilà. Et puis, en fonction de ce que fait la personne, quand même, en fonction du travail. Mélanie, si je dois vous mettre du lingual et que vous suintez un tout petit peu, ça va un tout petit peu vous gêner. Ouais. Voilà, maintenant...
Ah oui, déjà que l'élocution, c'est pas ça. Alors, imaginez qu'un appareil dentaire...
Maintenant, si vous êtes, derrière un ordinateur dans une banque...
Et que vous parlez pas beaucoup que vous parlez public...
Normalement, il n'y a pas de problème.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore les élastiques ? Moi, je me demandais. C'est vraiment le truc que je détestais, qu'il fallait coller entre les appareils du haut et les appareils du bas.
Et oui.
Même chez les adultes, vous les mettez, ils acceptent ça.
Ben oui,
c'est tellement moche.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas des aligneurs de dents. Le but, c'est que les dents, elles s'engrènent les unes avec les autres. Mmh. Et que, en fonction de ce qui s'est passé avant, et ben, les dents ne vont pas être les unes en face des autres. Donc, on peut tricher avec les élastiques, c'est-à-dire essayer comme un tiroir dans une commode de bouger un peu le tiroir pour le remettre exactement au bon endroit. Ces élastiques qui sont quasi systématiques, mais ils ne peuvent pas corriger non plus de grands décalages. Et là, on revient sur la chirurgie qui doit être utilisée.
Alors, un dispositif qui semble beaucoup plus intéressant, c'est les gouttières. Elle dit comme ça.
Transparente.
Ouais, transparente. On a envie d'avoir des gouttières, non ?
Mais surtout, d'un côté, ça s'enlève, quoi. Hein, c'est ça.
Voilà. Gros avantage, ça s'enlève pour manger, par exemple. Ouais. Et donc, contrairement à toutes les bacs collées, on ne peut pas faire tellement d'erreurs et quel que soit ce qu'on mange, ça ne va pas poser de gros problèmes.
Même pour les bisous, non, d'ailleurs, on n'a jamais parlé de ça. Les chemins de fer, est-ce que ça pose des problèmes pour...
Est-ce qu'on peut s'accrocher?
Parce que, oui, si deux personnes qui portent des bacs s'embrassent, est-ce qu'elles peuvent rester coincées?
C'est dans les films,
mythe,
ça.
La mythe de la boum, il faut éliminer ça. Il n'y a aucun souci de cet ordre-là. Donc, effectivement, les gouttières qui sont en fait des émanations du 3D et de l'évolution du tridimensionnel.
Elles sont adaptées à moi, mes gouttières ne seront pas celles de Jimmy. Hein,
heureusement.
Ça.
Mais déjà, les bagues linguales, comme je vous l'ai dit l'évolution, c'est qu'on va prendre vos dents et on va les bouger. Et à chaque demi-millimètre, on va faire une nouvelle gouttière. Oui. Donc, en fait, c'est une espèce de morphing du traitement qui va être séquencé.
On met en haut, en bas. Hein.
En
donc,
haut,
il y a deux
en
gouttières.
Bas, tout ce qu'il y a. On peut aussi mettre des élastiques entre le haut
avec les gouttières,
et le bas,
hein, oui.
Avec les gouttières.
Et ça ne se voit pas du tout, c'est ça qui est l'avantage.
Ça se voit un tout petit peu, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de brillance et d'épaisseur, mais ça se voit effectivement pas beaucoup. Ça gêne pas énormément la langue ni les lèvres.
Pour que ça marche, il faut les porter très longtemps quand même dans la journée, je crois.
Il faut les porter 22 heures sur 24. Donc, c'est vraiment les enlever uniquement pour...
Manger, se brosser les dents.
Manger, se brosser les dents. C'est une évolution et c'est une technique en plus. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors surtout, il faut faire attention à ne pas... parce qu'on commence à voir sur Internet, vous pouvez acheter vos gouttières. Non, alors... Très clairement,
sans
pour
passer chez l'orthodontiste, c'est un danger, attention.
Sans passer par l'orthodontiste ou chez le dentiste, mais l'orthodontiste, c'est sa spécialité. Comme je l'ai dit, il va pouvoir voir si le traitement est adapté ou pas. Si le suivi du traitement est très important, qui irait se traiter une hypertension en prenant des médicaments sur Internet et en voyant personne ? C'est absurde.
C'est dangereux.
C'est dangereux, il faut que quelqu'un le suive, quelqu'un arrête les traitements, quelqu'un change le traitement. S'il y a besoin, et ça, c'est le rôle du praticien.
Pour terminer sur cette gouttière, le coût moyen, c'est assez cher, je crois, quand même, cette technique.
Alors, il faut compter entre 3 500 et 5 6 000 euros.
D'accord. Et c'est le plus prisé, quand même, des adultes, ces gouttières transparentes aujourd'hui.
En ce moment, il y a une grosse demande de ce type.
Très bien. Docteur Kerbrun, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Jean-Baptiste Kerbrun. Vous êtes chirurgien maxillofacial et orthodontiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également membre de la Fédération française des orthodontistes. Alors, avant de passer à l'apnée du sommeil et à ce que vous pouvez faire en orthodontie contre ce trouble, on va faire peut-être un petit ping-pong question-réponse sur quelques questions que se posent nos auditeurs sur les appareils dentaires, justement, à l'âge adulte. Est-ce que vraiment, on peut manger de tout ?
Non.
Zut, la ligo, la raclette, c'est fini, ça colle.
Les choses dures, les choses collantes, quand c'est collé sur les dents, quand on met en porte-à-faux. Alors, par exemple, le pain, c'est pas très dur, on se méfie pas.
C'est dur pour
la
les
baguette,
adultes, ça. Ouais.
Et le fait qu'on mange le pain en le mettant sur les molaires et en tirant un peu, vous mettez en porte-à-faux la bague qui est collée sur la dent et elle se décolle. Donc finalement, on pourrait imaginer manger de tout, mais c'est la façon dont on le mange. Il faut tout couper en petits morceaux.
Bon, l'avantage, c'est qu'on va avoir de belles dents et maigrir, quoi.
Voilà.
C'est ça, donc, parce qu'on ne peut plus rien manger.
C'est aussi l'avantage des gouttières, effectivement, c'est que dans ces cas-là, on peut manger, puisqu'on l'enlève pour manger, donc l'alimentation n'est pas impactée.
Est-ce qu'on a besoin d'une technique particulière pour se brosser les dents lorsqu'on a des bagues, parce qu'on imagine que ça doit être un peu plus compliqué, ou est-ce qu'on fait exactement pareil? Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit acheter une brosse à dents spéciale?
Non, pas de brosse à dents spéciale, mais effectivement une technique un peu particulière. Il faut passer partout autour de la bague, y compris masser un tout petit peu les gencives, qui ont tendance à gonfler un petit peu avec un traitement orthodontique. Donc c'est plutôt une question de technique que de brosse à dents elle-même. Il faut, je rappelle, qu'elle soit extrêmement souple, de façon à telle une brosse, si vous prenez une brosse de pavé, elle est très dure, mais vous n'allez pas faire les coins.
Oui, alors que, là, faut vraiment
alors que
sous
le balai avec des fils très très fins, il va passer partout. Donc une brosse à dents très très souple avec des poils un petit peu longs, et on passe bien sous le fil et tout autour de chaque bague.
Et électrique,
donc c'est un peu
manuel, ça change rien.
Électrique, ça les aide un peu, à condition de ne pas poser la brosse à dents électrique dans la bouche comme ça et d'attendre que ça se passe. Non, il faut quand même un minimum de gestes associés.
Mais pas de risque de court-circuit avec la brosse à dents électrique, non.
Non, non.
C'est pas un chemin de fer, Jimmy, vous l'avez dit.
On m'appelait le cheminot quand j'étais petit, donc forcément j'ai gardé ça en tête.
Non, non.
Très bien. Alors, si on porte des couronnes ou des implants, est-ce que c'est possible? C'est une bonne question, ça, parce qu'effectivement, si on pose un appareil à l'âge adulte, on peut avoir ce type de dispositif dans la bouche.
Alors,
déjà.
Évidemment, quand on fait de l'adulte, il faut s'attendre quand même à avoir des dents qui ont été réparées dans le courant
de la
vie.
Il y a pu avoir un chantier précédent.
Et voilà, donc des choses à prendre en compte. Les implants, il faut comprendre qu'un implant ne se change pas de place. Il est ancré dans l'os. Et au contraire, si on a besoin de tirer sur une dent, de temps en temps, on est content d'avoir un implant pour tirer dessus. Mais un implant, on ne peut pas le changer. Donc c'est vrai que, par exemple, on a l'habitude de dire aux gens, si vous avez l'intention de faire un traitement orthodontique, l'implant à la fin du traitement et pas avant le traitement, de façon à pouvoir utiliser tout l'espace et faire une belle prothèse de la bonne place à la fin du traitement.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est douloureux de porter un appareil dentaire, notamment lorsqu'on resserre les bagues? J'ai le souvenir que pendant quelques jours, c'était douloureux
on sortie,
et on avait mal. Mais est-ce que c'est la même chose à l'âge adulte?
C'est même des fois un petit peu pire à l'âge adulte.
Il est honnête, hein, au moins.
Parce que la sensation douloureuse est plus importante. Mais à l'inverse, les techniques ont changé. Et c'est vrai qu'on utilise des fils un petit peu moins forts, avec des mémoires de forme qui utilisent le relargage de leur force pendant les deux mois, justement, inter-rendez-vous. Donc, on n'a pas la sensation d'avoir la totalité de la force en 24 heures sur les dents.
Qu'on a vécu, nous, et subi.
L'effet ressort, on a l'impression que pendant une semaine, c'était
l'enfer. Pour une fois, on est unis dans la douleur, Jimmy, vous avez vu tous les deux, c'est rare.
Voilà, ça fait toujours quand même un petit peu mal, il ne faut pas dire qu'on ne sent rien, mais pas de là à prendre, par exemple, des médicaments.
Bon, docteur Carabra, on va passer au traitement donc, de l'apnée du sommeil. Alors, on n'en parle pas de tous les cas, on est d'accord, de tous les cas de patients qui ont ce type de problème, mais il y a des apnées du sommeil qui peuvent être causées directement par un problème dentaire, c'est ça?
Alors, ce n'est pas le problème dentaire qui va créer l'apnée du sommeil, c'est l'association problème dentaire, problème de mâchoire. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, au palais, un tout petit palais, très très creux, en forme de V, et avec des dents qui se chevauchent. Les dents, elles se chevauchent parce que le palais est trop étroit. Mais parce que le palais est trop étroit, vous ne mettez pas votre langue au palais, vous ne respirez pas par vos fosses nasales, vous respirez par la bouche. Et donc là, vous avez toutes les chances de faire de l'apnée du sommeil.
Mais du coup, on fait comment? Puisque le palais de l'enfant, il est un peu modulable, celui de l'adulte, il est fixe. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Puisque les bagues, on se dit, là, elles vont peut-être pas servir à grand-chose.
Non, les bagues toutes seules, elles vont pas servir à grand-chose. Vous avez tout à fait raison. On va faire la même chose que chez l'enfant, c'est-à-dire qu'on met un appareil au palais pour l'élargir, sauf qu'il va falloir céder.
On commence par ça. D'abord, c'est l'appareil avant de traiter, avant d'opérer éventuellement.
Alors, bon, ça dépend des cas. Là, on rentre dans quelque chose de plus technique. Mais oui, il va falloir écarter souvent le palais. Et pour ça, on cède du chirurgien, c'est-à-dire que c'est lui qui va affaiblir le palais, faire un petit trait dans l'os, de façon à ce que le vérin que l'on met chez l'enfant et qu'on mettra chez l'adulte va pouvoir écarter les deux mâchoires maxillaires. On a un maxillaire droit et gauche qui n'est pas encore soudé. Il se soude, le chirurgien va le couper et on va pouvoir de nouveau l'ouvrir finalement et ouvrir les fosses nasales et gagner énormément de place pour la langue.
C'est ça que vous faites donc quelqu'un vient pour une apnée du sommeil au bloc, ça se passe comme ça, c'est lourd comme intervention. Alors, quand même, parce que j'imagine écarter la mâchoire comme ça, enfin écarter le palais comme ça.
Non seulement ça, Mélanie, mais en plus très souvent il va falloir réadapter la mâchoire du bas qui est souvent trop en arrière pour la repositionner elle. Donc finalement, quand on va opérer le patient, on va opérer et la mâchoire
du bas haut, et du haut
et le maxillaire et la mandibule, de façon à rétablir une bonne congruence et tout ça pour qu'il y ait le maximum de place et que les deux mâchoires soient le plus en avant possible pour que la base de langue ne soit pas trop en arrière.
Combien de temps on bloque pour faire tout ça?
Deux heures et demie.
Quand même,
effectivement, la semaine qui suit est un peu pénible où on peut vraiment manger que du liquide. Et puis après, tout s'améliore. Il faut compter un mois d'arrêt de travail.
Quand même, aussi. Donc on comprend que c'est une intervention sérieuse.
Intervention sérieuse. Mais à l'inverse, quand vous avez une pression positive continue ou une orthèse d'avancée mandibulaire et que vous avez 45 et qu'on vous dit c'est ça à vie, vous avez aussi envie peut-être, alors nous c'est les masques, retrouver la liberté du masque, mais là aussi nos patients apnéiques, ils ont retrouvé la liberté de ne pas avoir la nuit quelque chose pour les maintenir, maintenir le sommeil de bonne qualité.
Ça veut dire que les patients, ils ont quand même la motivation de passer au bloc opératoire pour entre guillemets que de l'apnée du sommeil. On le sait, c'est une maladie qui est potentiellement grave. Mais on a tendance à se dire, bon, bah, est-ce que je vais vraiment passer sur le billard pour juste de l'apnée? Est-ce que vraiment les patients ont une bonne motivation?
Écoutez, j'allais vous dire pire que ça, c'est que c'est le même traitement pour quelqu'un qui n'a pas d'apnée. C'est la chirurgie aussi dans ces cas de mâchoire. Et ils y vont sans aucun problème. Donc au contraire, l'apnéique, on lui enlève tous ses remords. C'est-à-dire qu'il y va franco en disant, si je peux éviter l'orthèse ou si je peux éviter la PPC... Alors, on ne promet rien non plus, parce que le suivi est assez compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 10-15 ans, on sait que...
Ça améliore.
Oui. J'ai le souvenir d'un homme de 70 ans... de 50 ans qui avait 70 apnées-heures et qui est passé à 3 apnées-heures après sa chirurgie.
Bon résultat.
Son vécu était métamorphosé.
Ouais. Combien de, vous disiez, il y a un arrêt de travail, on passe par l'orthodontiste aussi, on peut avoir un appareil, cette intervention. Est-ce que tout ça est pris en charge? Parce que là, pour le coup, on parle d'une vraie maladie. L'apnée du sommeil, avoir des dents tordues, bon, certes, c'est pas esthétique, mais avoir une apnée du sommeil, c'est avoir une pathologie quand même.
C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que quand on est apnéique, l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est donc cet appareil qui avance la mâchoire la nuit, ou la PPC, est remboursée.
Ouais.
On vous propose quelque chose, une alternative qui va faire qu'on ne va plus rembourser rien, mais par contre, l'orthodontie n'est toujours pas remboursée.
Mais la chirurgie, quand même. Oui.
Quel que soit en France, la chirurgie des mâchoires est toujours remboursée. Mais finalement, il n'y a pas de bon pour quelque chose de supplémentaire, malgré le fait qu'on soit très malade, et que je le redis à vos auditeurs, si vous pensez que votre mari, votre femme fait des apnées du sommeil, consultez. C'est quand même x5 de risque d'AVC. C'est très
c'est
grave. Donc il faut vraiment ça mettre le doigt dessus.
Apnée du sommeil qui existe aussi chez l'enfant, c'est mal connu, mais du coup, vous pouvez aussi proposer les mêmes types de traitements ou c'est un peu différent?
Alors, c'est le même traitement, mais sans chirurgie. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est effectivement regagner des mâchoires de bonne taille. On le fait à partir de 6-7 ans jusqu'à 11-12 ans, qui est la fin de la croissance. Et là, on peut avoir de très bons résultats. Alors, malheureusement, l'apnée est aussi une maladie avec plusieurs causes. Ce n'est pas parce qu'on en enlève une qu'on n'en a pas d'autres et que les résultats sont à 100%. Mais de toute façon, quelle que soit la pathologie, de remettre des mâchoires de bonne taille, ça va forcément dans la physiologie du patient. Et il va de toute façon mieux respirer, ça c'est sûr.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Kerbrad, d'avoir été avec nous cet après-midi, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur les soins en orthodontie chez les adultes. Et oui, il est désormais possible de retrouver un sourire éclatant à n'importe quel âge. Merci, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre séquence Les Bobos du quotidien, dans laquelle on va parler de l'hémangiome infantile. Savez-vous ce que sont concrètement ces taches rouges en général que peuvent présenter les bébés sur le visage ou le corps à la naissance? Pourquoi les médecins, souvent, disent aux parents de ne pas s'affoler, d'attendre un peu avant d'intervenir? Avez-vous une idée du traitement, justement, quand il faut, là, pour le coup, intervenir? Notre reporter Barbara Silvera Sonigo vous a interrogé. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Hémangiome.
Un hémangiome?
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est, je crois, comme une sorte de grain de beauté un peu rouge, une sorte de tache de naissance un peu rouge qui peut être chez les enfants, un peu rouge ou violacé.
Ça doit être une partie du cerveau.
Ou un genre d'hématome dans les parties sensibles.
C'est comme un cancer.
Ça peut être bénin peut-être, peut-être un peu comme les AVC.
Comme tout, il doit avoir des formes bénignes et des formes malignes. Un hémangiome infantile, ça serait un hémangiome qui arrive chez les enfants à la naissance.
C'est un hémangiome, mais avant qu'il soit vraiment là. Du coup, il a encore c'est un petit hémangiome, quoi.
Si c'est une malformation, je sais pas, peut-être que c'est à la naissance et après que ça s'arrange.
Je pense que c'est grave.
Ça peut être relativement fréquent, mais que ça peut peut-être disparaître en grandissant.
Peut-être que ça se traite, peut-être que ça passe avec le temps, peut-être que c'est rien de grave.
Il faut les surveiller.
Il faut faire toujours attention.
Alors Jimmy, on va tout reprendre d'abord. C'est quoi un hémangiome chez un nourrisson? Je vais prononcer le mot tumeur, mais attention, vous qui écoutez, surtout, n'ayez pas peur, ça n'a rien à voir avec un cancer.
Hein. Oui, c'est vrai que j'aime pas ce mot tumeur. Alors on peut
tumeur
parler plutôt...
bénigne, peut-être, tumeur vasculaire.
De malformation bénigne, j'aime bien ce terme, d'origine vasculaire. Donc ça vient des petits vaisseaux. Vous allez avoir des cellules qui vont proliférer, qui vont se développer au niveau des tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. On ne sait pas pourquoi certains enfants vont avoir ça. On pense que c'est lié à un manque d'oxygène à un moment donné pendant la grossesse, mais on n'en est strictement pas sûr.
C'est encore assez sombre. Ouais.
Et donc, cette formation de cellules au niveau des vaisseaux sanguins va donner l'hémangiome, Le plus connu, c'est la celle qui va être rouge écarlate, qui va être mamelonnée, qu'on appelle aussi la fraise. Et donc, savoir l'aspect d'une fraise sur le visage d'un enfant, c'est pas
moche. Ma fille avait les deux paupières quand elle est née, comme ça, avec des hémangiomes qui sont effectivement partis au bout d'un an. Hein. C'est assez fréquent, je crois, Jimmy, chez les bébés à la naissance. Hein.
Exactement. Alors, on estime que c'est 5 à 10% des enfants, donc c'est plutôt très fréquent. Ça touche deux fois plus les filles que les garçons. Et dans les trois quarts du temps, ça va toucher le visage au niveau de la tête, mais souvent de moins de 3 cm. Donc, c'est pas si gros, puisqu'on a l'image d'un truc immense. Car de façon proportionnelle, ça a l'air très gros vu que la tête de l'enfant n'est pas très grosse.
Mais je disais les paupières, justement, vous disiez les capillaires, ça c'est vraiment sous la peau, mais à la limite sur une peau très très fine en fait, hein, c'est ça. Il ne faut pas confondre ça, Jimmy, avec les angiomes plans. Ça c'est quoi pour le coup ?
Trois différences. L'angiome plan, la nature est différente. Là, je vous avais parlé de cellules au niveau des vaisseaux sanguins qui vont proliférer. Dans un angiome plan, vous avez plutôt une malformation des petits vaisseaux qui vont être dilatés. Et comme ils sont dilatés, ils vont donner cette couleur un peu rouge violine qu'on peut observer. Et puis, vous avez aussi une présentation qui est un peu différente. L'angiome plan, il va se présenter sous forme de taches sans relief, alors que l'hémangiome va avoir une tuméfaction qui va être un peu saillante. Et puis, l'évolution est différente. Dans l'hémangiome, on sait que ça va évoluer en plusieurs phase alors que l'angiome plan va souvent persister tout au long de la vie.
D'accord. Et donc dans la majorité des cas, c'est vrai que les parents à qui ça arrive, on a toujours envie d'avoir un bébé parfait à la naissance sans aucune tache, sans aucun problème. Quand on voit ça, on a toujours un peu peur que ça reste, que ça s'aggrave. On leur dit bah, le meilleur des traitements au départ, c'est la patience. Hein,
exactement.
Je crois.
Puisque ouais. Dans 80% du temps, il faut bien prévenir les parents, l'angiome va doubler lors de la première année de vie. Donc forcément, les parents vont se dire, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ouais. Là, c'est en train de s'aggraver. Donc il faut les prévenir. Puisqu'ensuite, ça va se stabiliser vers l'âge de 18 mois avant de régresser quasiment totalement dans 80% du temps à l'âge de 5 ou 6 ans sans qu'on fasse strictement rien. Donc le meilleur traitement, eh bien, c'est la patience et le temps.
C'est pas facile quand on est jeune parent, parfois, avec tout ce stress. Jimmy, par contre, dans certains cas, là, pour le coup, il faut vraiment traiter parce que ça laisse une trace qui peut s'avérer gênante ou parce que la localisation peut poser problème. Hein,
exactement.
C'est ça ?
Alors, pourquoi la localisation ? On imagine que si jamais vous avez un hémangiome au niveau des yeux, eh bien le pronostic visuel peut être engagé. Même chose s'il y a de nombreux hémangiomes ou si jamais ils sont ulcérés. Dans ces cas-là, on peut proposer des traitements. Mais c'est souvent une prise en charge multidisciplinaire, pluridisciplinaire, puisque vous allez voir le chirurgien, le dermatologue, parfois le radiologue. Et on a toute une gamme de traitements qu'on adapte au cas par cas.
C'est quoi
parfois,
des médicaments
du médicaments, ouais. Notamment des bêta-bloquants qui vont ralentir la fréquence cardiaque et limiter la prolifération des vaisseaux. Des corticoïdes, parfois un traitement chirurgical où on a recours aussi au laser. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est dans des situations très particulière, puisque dans 80% du temps, eh bien, ces hémangiomes vont disparaître spontanément. Donc la décision, elle revient quasiment qu'au médecin, mais encore une fois avec discussion des parents, même s'il faut essayer de patienter le plus possible.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage qui va, je suis sûr, rassurer tout de même pas mal de jeunes parents.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, bien sûr, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle fait son entrée en scène tous les jours à la fin de cette émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre un grand thème comme cela, à savoir l'éjaculation nocturne. Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent, ce genre d'éjaculation typiquement nocturne, simplement ?
Bon, c'est très fréquent et très normal. Maintenant, pas très fréquent pour tous les hommes de tous les âges. C'est surtout, ça concerne surtout les jeunes. Les jeunes et leurs premières érections. Ceci étant, les adultes peuvent tout à fait connaître cela, notamment à l'occasion du sommeil paradoxal et des rêves érotiques. Et évidemment, pas embarqué dans le rêve. Les émotions vont avec, mais comme c'est un rêve de horrible, catastrophique, où on peut se réveiller parce qu'on éclate de rire parce que le rêve est drôle, eh bien c'est la même chose qui peut se produire également avec la sexualité, assez naturellement. Ce qui est vrai aussi chez les femmes qui connaissent des lubrifications.
Des orgasmes nocturnes.
Et des orgasmes nocturnes qui peuvent les réveiller d'ailleurs.
Mais du coup, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait un rêve érotique. Ça ne peut pas être un rêve lambda.
Il
n'y
a pas de
truc
chimique, a priori, je crois, non.
Oui, non, mais ce n'est pas un rêve lambda. Je cherche une baguette, je vois mon voisin et paf, je me réveille, j'ai le caleçon un peu taché.
Non. Alors, la question est très bonne parce que ce n'est pas lié toujours à de l'érotisme. Ce peut être exclusivement mécanique puisque le système nerveux qui gère justement la tension des muscles dans les petits vaisseaux pour permettre la circulation sanguine va entraîner le fait que la verge est érigée ou pas, en l'occurrence pas. Et puis tout d'un coup, qui se relâche ? Et du coup, cette verge se retrouve tout d'un coup en érection et le chemin faisant peut entraîner également une éjaculation, tout simplement pour des raisons physiologiques de système nerveux qui fonctionne.
Attendez, physiologique, ça veut dire est-ce qu'on chercherait à évacuer aussi un peu de pression si on a une longue période d'abstinence? Est-ce qu'on est
alors,
plus à risque
ça, c'est
de libérer justement le geyser qui sommeille en...
Plutôt dans la tête, effectivement, donc le besoin rien. D'éliminer. Mais physiologiquement, sachez que le sperme n'est pas contenu jusqu'à ce que vous explosiez comme une coucoune.
Oui, c'est pas une marmite qui déborde. Non, d'accord, les testicules, c'est pas du tout comme ça que
non,
ça se passe.
Pas non. du tout, ça s'élimine tout seul et ça finit par d'ailleurs, quand on est, ça s'utilise pas, même ne pas se produire tant qu'on n'en a pas besoin. Donc le corps est très bien fait. N'ayez crainte, messieurs, vous n'allez pas exploser en plein milieu de la nuit parce que cela déborde. Et évitez de faire penser aux femmes qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans pour que ça ne déborde pas justement.
Mais est-ce qu'ici, il faut vraiment des rêves extrêmement, parce qu'on a tous des rêves comme ça, plus ou moins réels, vous voyez ce que je veux dire, Jimmy? Non, vous voyez
non,
pas.
Voyez.
Non, mais je veux dire, parfois on fait des petits rêves comme ça, on s'en rappelle pas. Puis des fois, il y a des rêves vraiment, on a l'impression d'y être, quoi. Il faut ce genre de rêve pour arriver jusqu'à ces pollutions, éjaculations nocturnes. D'ailleurs, je crois qu'on dit pollution, mais c'est pas de la pollution. Hein.
Non, on disait ça, c'est très 19e, on disait pollution nocturne.
Pollution nocturne, ouais.
Où on disait aussi.
Vous avez pas lu beaucoup de livres du 19e,
évacuation nocturne ou libération nocturne. Enfin, voilà, c'est selon le jugement. Morale que l'on mettait sur les choses. On parlait même de cartes de géographie, ce qui est très élégant. Mais encore
de
une fois.
De géographie
oui, sur le drap. Parce que ça laissait.
Voilà.
Oui,
oh, j'avais même pas entendu
voilà,
parler
c'était
de ça.
Tout ça
c'est pas
ça,
très c'est, poétique. Hein, c'est,
mais c'était très 19e, c'était très culpabilisant. C'était voilà, sur le sujet de la sexualité, en accusant toujours évidemment une masturbation à l'origine de cela. Alors
qui rend sourd en plus. Hein,
et qui rendait sourd, et on a bien dit que c'était sourd à l'autre, n'oublions pas, et pas sourd physiologiquement.
Mais du coup, est-ce qu'il y a forcément un orgasme qui va avec ou ça peut être juste mécanique? On se réveille, on n'a pris aucun plaisir, on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé, et puis
absolument.
Parfois ça peut culpabiliser d'ailleurs les adolescents. Vous l'avez dit, c'est les jeunes qui vont surtout avoir ça.
Oui, et puis alors ils peuvent surtout, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être du tout lié ou à un plaisir ou à un plaisir dont on se souvient, si bien qu'ils ont le sentiment que leur corps leur a échappé, et ça renvoie un peu à l'énurésie. Le sentiment
oui,
que dans.
On avait fait pipi au lit. Hein,
exactement. Et avec du coup une inquiétude quant à contenir son corps, son sexe et ses capacités.
Donc pour les jeunes qui nous entendraient, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de maladie derrière ou de problème d'être pervers ou je ne sais quoi. C'est classique, c'est normal, surtout quand on est jeune.
Et si on est un peu inquiet, je trouve que sur ce sujet, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas une histoire de longue date. Hein, c'est aller en parler à quelqu'un, un psy ou un sexologue. Mais en tout cas, si c'est un psy, il faut qu'il ait une oreille attentive au sujet de la sexualité. Parce que souvent, j'observe, moi, chez notamment des hommes qui connaissent cela, qui, quand ils étaient petits, étaient nurésiques. Parce que, on est...
Ça ramène à une honte dans l'enfance qu'il
exactement.
Faudrait pas
exactement. Et du coup, souvent, après, derrière, c'est plutôt l'éjaculation précoce. Comme si ce pénis n'était jamais le leur et qu'il ne pouvait jamais en connaître le fonctionnement et en maîtriser un tant soit peu les expressions diverses, dont le désir d'éjaculer ou de ne pas éjaculer, de le garder pour soi ou de le reporter un peu plus tard.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils précieux et précis, comme toujours. Merci de nous avoir suivis tous à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement votre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Mélanie. Alors attention Mélanie, vous aimez les imitations d'animaux, Stéphane est là.
Ouh, ils ont vu le loup.
Mais qui ça Stéphane?
Jean de La Fontaine, c'est les 400 ans de naissance de Jean de La Fontaine. Donc oui, on aura un invité extraordinaire. Vous savez, je crois que Fabrice Lucchini viendra nous donner quelques fables.
Vous êtes sûr?
Oui, Sergueï Prokofiev aussi, Pierre et le loup. Alors, ça nous faisait peur quand on était petit, ce conte pour enfants. Et vous avez choisi un homme qui a joué avec des loups.
Un acteur qui visiblement vous a marqué, Stéphane, Kevin Costner. Oui. C'était la star des années 90, j'ai envie de dire des années 92-94 pour être précis. Sa carrière a été, il a connu un summum assez court, mais il danse avec les loups quand même. Vous avez vu ce film?
Oui, non.
Que devient Kevin Costner?
Oui, c'est ça, je me posais la question.
Merci beaucoup messieurs, on va rester avec vous, on va danser avec les loups nous aussi et vous aussi qui nous écoutez, restez bien sur Europe 1.